La mort.
La mort.
La mort.
La mort.
Les morts.
La mort.
La mort.
La mort.
Printemps mortel, la mort sur les ondes, du 18 avril au 21 juin. Le printemps mortel est organisé par le Centre social La Paz, la Maison de quartier des Ors, Radio Royan Vercors, Thanatosphère et les PEP.
On parle de la mort ce mois-ci, d'existence,
du deuil,
d'émotion,
de l'au-delà,
d'amour immense,
de soins palliatifs,
défunts ou défuntes,
en souffrance,
peur de la mort, tristesse,
rituel, sépulture,
à tous les morts,
violentes ou prématurées,
ramener la mort dans l'espace public.
Chaque semaine, une sélection spéciale de Radio Royan Vercors, 93 FM.
Pour accompagner et vivre le deuil.
Parler avec les morts.
Il y a plein de petites morts.
Comme une ombre parmi les vivants.
La seule certitude qu'on a dans la vie.
Finalement, la mort fait partie de la vie. La mort, on y est tous et toutes confrontés.
Grande communauté invisible, des personnes qui doivent vivre avec.
Des émissions inédites pour parler de choses sérieuses avec légèreté.
On peut aussi parler de la mort sans être glauque, sans être grave, sans être... Il n'y a pas que de la tristesse, en fait.
Cette semaine, dans les Rendez-vous mortels, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir les émissions mensuelles mises en place par l'association Thanatosphère sur les ondes de notre radio consoeur Radio BLV, Radio Bourg-les-Valences. L'émission On ne mourra pas d'en parler, de l'association Thanatosphère, mêle des paroles ordinaires et des paroles de spécialistes et revisite les vies avec la mort. Nous avons choisi trois épisodes, le premier de leur série qui était « Qu'est-ce que le deuil ?», le deuxième sur l'impact écologique des funérailles et des cimetières, et puis le troisième épisode qui s'appelle « L'enfant et la mort » autour du livre de Joël Steifhofer, Saul, en compagnie de la paléothérapeute Sophie Gidroll et de Colline et Armand.
On ne mourra pas d'en parler. Bonjour, je suis Agathe et je suis ravie de vous accueillir pour cette première émission de On ne mourra pas d'en parler. Une émission qui revisite nos vies avec la mort, diffuse des informations, suscite des questions et des explications. Pour la première de l'émission, j'ai pensé que ce serait une bonne chose de prendre le sujet à bras-le-corps et de nous interroger sur le deuil. J'ai l'impression que le deuil, c'est un processus qui peut être assez long, qui est singulier. Les gens en parlent de manière extrêmement variée. Certains disent qu'ils ont eu besoin de prendre des médicaments. Certains n'ont pas l'air de s'en être vraiment remis. D'autres ont l'air, au contraire, de s'en sortir très bien. Donc je voudrais qu'on ait un éclairage peut-être un peu plus spécialisé, un petit peu plus documenté aussi. J'ai fait appel à Pierre Chambaud, Pierre qui est médecin généraliste à la retraite, mais très actif, et qui est formé à l'accompagnement au deuil. Pierre, j'aimerais que, grâce à votre bonne expérience dans l'accompagnement des personnes, on puisse avoir une information un petit peu plus précise et surtout des repères sur qu'est-ce que c'est que de vivre un deuil et surtout comment aussi on peut soulager, aider, accompagner les personnes qui vivent cet événement.
Bonjour Agathe.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que le deuil, justement? C'est une grande question. C'est une question qui nous préoccupe tous parce que, qu'on le veuille ou non, un jour ou l'autre, on est concerné par le deuil. Alors, le deuil, c'est la meilleure définition que je puisse en donner, c'est une souffrance. C'est une grande souffrance, à la fois psychique et physique. Parce que le deuil, c'est la rupture d'un lien d'attachement. Un lien d'attachement, c'est ce lien qu'on a créé avec une personne et qui est fait du quotidien, de tout ce qu'on a pu vivre avec cette personne. Et un jour, ce lien se rompt. Et c'est ce qu'on appelle la mort. Et ça peut générer effectivement des grandes souffrances psychiques, émotionnelles, et qui peuvent se répercuter au niveau du physique. Alors, le déroulé du deuil, classiquement, le deuil dit « normal », je mets des guillemets à « normal », se déroule sur classiquement quatre phases. C'est une première phase qui démarre dès qu'on apprend le décès de la personne à laquelle on était lié. Que le deuil soit prévu, préparé ou pas préparé, qu'il soit brutal ou pas, il y a à ce moment-là un choc, un véritable choc. Et j'ai le souvenir d'une personne qui m'avait dit que le jour, au moment où son conjoint était parti, alors qu'il décédait d'un cancer, elle m'a dit, j'ai eu l'impression de prendre un Kingston en pleine poitrine. Et à ce moment-là, il y a cet état de choc et de sidération qui correspond à ce qu'on appelle la première phase. C'est-à-dire que les gens sont soit anesthésiés, soit au contraire se perdent dans une espèce d'activité complètement stérile, qui n'est que la possibilité, la mise à distance de la montée d'émotions qui est là et qui peut être très intolérable. C'est une phase qui va durer, on va dire, de quelques heures à quelques semaines, pas au-delà d'un mois maximum. Et c'est ce qui permet d'ailleurs aux gens de faire face à ce qui se passe, c'est-à-dire d'être installé les funérailles. Tout ce qui doit dérouler de funérailles, du moment justement, qui est quand même très très difficile à ce moment-là. Et puis démarre très rapidement ce qu'on appelle la deuxième phase, et qui est une deuxième phase qui peut durer entre classiquement 6 mois, 10 mois, on va dire 1 an. C'est une phase qu'on appelle la phase de fuite et de recherche. Alors la fuite, c'est les gens se complaisent, j'allais dire, dans une suractivité physique, mais qui est complètement stérile. Et mais surtout, c'est la recherche de la personne disparue et qui permet de faire maintenir vivant ce lien avec la personne disparue.
Donc c'est par exemple, excusez-moi, faire des choses qu'on aimait faire ensemble et se mettre à les faire tout seul d'une manière un peu frénétique.
C'est exactement ça. Ça peut être aussi la recherche dans les photos, disposer des photos un peu partout. C'est se mettre à aimer ce que la personne disparue aimait, qu'on n'aimait pas forcément. J'ai toujours cette anecdote de ce monsieur qui a perdu son épouse, qui était passionné d'opéra. Lui avait horreur de l'opéra. Et après le décès de son épouse, il s'est passionné pour l'opéra. Alors qu'en fait, il ne pouvait pas l'encadrer. Ça va être aussi maintenir ou garder les objets que la personne aimait. Ça peut être rechercher, refaire les promenades qu'on avait fait ensemble. Ça peut aller même jusqu'à visiter le cimetière tous les jours. Ça peut, toutes ces choses-là qui font que on essaye de maintenir le lien qui existait avec la personne disparue. Alors, souvent, l'entourage comprend très mal cette situation, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une situation qui peut durer plusieurs mois, jusqu'à un an. Et souvent, l'entourage comprend très très mal, parce qu'ils disent « Mais comment tu te complais dans cet aspect un petit peu morbide ? Enfin, secoue-toi, fais quelque chose, sors, vois du monde, va au cinéma, c'est pas possible. » Et dans cette situation-là, les gens ont la sensation que l'entourage ne les comprend pas, ne les entend pas. Une personne m'a dit « Moi, pendant toute cette période, j'avais l'impression d'être sous une cloche de verre. Je voyais les gens, je les entendais, mais ils ne me voyaient pas, ils ne m'entendaient pas. » C'est une situation qui est souvent très, très, très douloureuse, mais extérieurement, les gens ne le montrent pas.
Ils se coupent un peu de leurs proches, de leurs relations sociales habituelles, du coup ?
Oui. Tout à fait. Et en général, quand on leur demande comment ils vont, ils vous répondent « Oui, ça va bien. » C'est pas vrai, ça va pas. Ça va pas parce que ils ont la sensation qu'on ne les comprend pas. Ils n'auraient qu'une envie, c'est parler de la personne disparue. Ils ont ce besoin de parler pour la faire vivre. Parler de la personne disparue, c'est la maintenir en vie. Et les gens, l'entourage, la famille, les amis, quelque part, ça les saoule un petit peu, puis ça leur fait peur surtout. Ça leur fait très très peur.
Oui, ils peuvent avoir l'impression aussi qu'ils participent au maintien de la personne dans un état qui est peut-être ce qu'on pourrait considérer comme pathologique si on n'est pas tellement informé.
C'est tout à fait ça.
Parce que compte tenu des délais que vous donnez, moi je trouve ça très long. J'ai l'impression que là on est dans quelque chose qui est anormal, alors que vous avez l'air de dire que ça c'est la normalité.
C'est la normalité. Un deuil, c'est quelque chose qui peut durer pendant très très longtemps. Là, je disais que la première phase peut durer, on va dire, quelques heures, quelques semaines, mais cette deuxième phase peut durer en gros un an, c'est-à-dire jusqu'à l'anniversaire du décès. Et c'est pour ça qu'autrefois, dans les traditions, on faisait ce qu'on appelait la messe de Boudolan, c'est-à-dire que à l'anniversaire du décès de la personne, il y avait une cérémonie religieuse qui réunissait toute la famille. Et c'était une manière comme une autre de clore quelque chose.
De marquer le passage vers une amélioration ou une capacité à vivre seul.
Oui, parce que le deuil, en fait, c'est la capacité de passer du nous au je. Le nous, c'est le lien qui a été créé avec la personne disparue. Et le je, c'est prendre conscience qu'on est un être, un individu unique. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et très souvent, et c'est là où ça devient un petit peu plus ennuyeux, c'est que la troisième phase démarre au bout d'un an, en général, à l'anniversaire du décès de la personne partie. C'est ce qu'on appelle la phase de déstructuration, qui est une phase qui est très douloureuse et qui est surtout caractérisée par un vécu dépressif qui peut être très important. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'énergie psychique que la personne en deuil a utilisée pour maintenir en vie ce lien d'attachement qui a pourtant disparu, intellectuellement elle sait que la personne est partie. Mais émotionnellement, le cœur ne le sait pas encore. Mmh. Mais cette énergie psychique est complètement épuisée. Mmh. Et c'est d'ailleurs le moment où les gens s'effondrent, psychiquement et physiquement. Et c'est ce qu'on appelle la phase de déstructuration, et qui va se manifester par un vécu dépressif, avec des tristesses, avec des pleurs, avec un retrait sociétal, avec des troubles du sommeil, avec des troubles de l'appétit, avec tout un cortège physique. Et d'ailleurs, les gens vont consulter le médecin. Le médecin dit « Mais vous avez rien, ma pauvre dame, mon pauvre monsieur. Vous avez un petit coup de déprime, on va vous donner des antidépresseurs. » Surtout pas. Sauf si, effectivement, il y a un état dépressif vrai, mais ça, c'est autre chose. Parce que les antidépresseurs bloquent l'expression des émotions. Et donc, on peut avoir après affaire justement à des deuils qui sont prolongés ou des deuils différés ou des deuils inhibés. Et ça, c'est très ennuyeux quand même. Donc cette phase-là aussi va se manifester en général par beaucoup de colère. Alors des colères en général soit contre l'univers, contre Dieu si on est croyant, contre le système médical qui n'a pas été foutu de maintenir la personne en vie, contre soi-même. Moi, j'ai pas été capable et j'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour le maintenir en vie, c'est pas possible. Et même contre la personne disparue qui nous a lâchement abandonnés. Donc il y a toutes ces colères qui sont là. Il y a aussi une culpabilité qui traîne dans le coin, très très souvent. Hein, j'ai pas été bon, j'ai pas été à la hauteur, j'ai loupé des tas de choses. Et ça, ça peut durer facilement entre 8 mois, 1 an, voire même plus, suivant les circonstances du décès de la personne.
Mais Pierre, on en est à pratiquement 2 ans là.
C'est pas fini.
Je vous écoute.
C'est vrai que bon, cette phase-là, en fait, contrairement à ce que pensent les gens, c'est pas une dégringolade. C'est au contraire le signe que la cicatrisation de cette rupture du lien d'attachement est en train de se faire. C'est une crise, moi j'appelle ça une crise de résolution positive, mais qui est très souvent mal compris et par la personne endeuillée et par l'entourage. Parce que les gens croyaient que c'était fait, que le deuil était derrière eux, que c'était fini. Et non, et ça leur revient en pleine poitrine, en plein visage. C'est ce qui est le plus douloureux, mais c'est en fait une crise de résolution positive. Parce que dans le même temps, alors qu'ils prennent conscience de façon totalement formelle, ils prennent conscience que ce lien d'attachement s'est complètement délité. Mais dans le même temps, il y a un autre lien d'attachement qui se fait. C'est un lien d'attachement qui n'est plus externe, mais qui est interne. Et parce qu'on dit toujours que la mort n'existe pas dans le cœur. Or, un deuil accompli, c'est une cicatrice dans le cœur. Et une cicatrice dans un corps humain, c'est le tissu le plus costaud, le plus résistant qui soit. Et ça, c'est quelque chose de très important. La mort n'existe pas dans le cœur.
C'est une belle image, ça me fait penser aux méthodes artisanales japonaises pour réparer la porcelaine. Où on fait une cicatrisation, enfin, on fait pas une cicatrisation, je vous prends vos mots, on fait une réparation avec de l'or, de manière à la montrer et à la magnifier. Et je trouve que ça correspond assez bien à ce que vous êtes en train de nous raconter. Donc je vous remercie pour cette mise en perspective. Donc en fait, un deuil, c'est pas en 3-6 mois qu'on s'en sort, c'est ça que vous nous dites ?
Oui.
Que ça dure longtemps et qu'en fait, c'est quelque chose de normal.
Tout à fait. C'est un processus physiologique normal. Et j'ai encore pas parlé de la quatrième phase.
Ouh là là. Je vous laisse.
La quatrième phase démarre à ce moment-là, en fin de la troisième phase, mais c'est une phase de reconstruction. Et c'est une phase de reconstruction qui voit les rapports se modifier sur trois plans. Les rapports à la société, on retourne dans la société, on est capable de nouveau de prendre la vie à bras-le-corps, et on a un rapport aux autres qui est très pacifié. Puis c'est un nouveau rapport à la personne décédée, c'est-à-dire qu'on peut en parler sans souffrance. On peut tout à fait, 10 ans plus tard, on peut parler de la personne disparue, on peut l'évoquer, mais sans souffrance. C'est quelque chose qui est très apaisé. Et enfin, c'est surtout un autre rapport à soi-même. C'est-à-dire que c'est une épreuve qu'on a traversée, c'est une épreuve qui nous a grandi. On est différent. On est passé du nous au je, et on vient de découvrir qu'on est quelqu'un de particulier, un être unique. Et en général, les gens qui ont traversé cette épreuve sortent grandis.
Je vous remercie pour cette explication imagée, par étapes, qui nous permet de nous rendre compte de qu'est-ce que ça peut être ce phénomène dans notre vie et de mieux peut-être le prendre en considération. Je vous propose de faire une pause musicale pour nous remettre de ce périple et on se retrouve après un morceau de Fauve. À tout de suite.
Me laisse pas devenir un fusil sans cartouche, un cheval sans cavalier, un cavalier à pied. Me laisse pas devenir un sprinter sans ligne d'arrivée, un train sans passager, une dispute qui a mal tourné. Une dispute qui a mal tourné. Me laisse pas devenir un pestifère, me laisse pas devenir un chanteur de mariage, un pilier de bar, une barrière de péage.
Je sais bien que t'es à terre, que les questions te brillent la tête, et que la douleur t'empêche de parler, de dormir et même de penser. Comme si un train de marchandises t'était rentré dedans. Je sais bien que tu regrettes plein de choses, tous ces mots durs qu'on s'est échangés. Avec nos yeux qui lançaient des poignards et nos langues qui faisaient comme des marteaux. Je sais bien que tu voudrais m'avoir en face de toi pour m'attraper et me secouer, me demander pourquoi j'ai fait ça. La vérité c'est que je sais pas, je réfléchis pas toujours, tu me connais. Je sais bien que tu comprends pas, mais peu importe le résultat, ça change rien à l'amour, je t'assure. Et un jour elles se refermeront dans tes blessures. Je te demande pardon, pardon, excuse-moi. Je voulais pas te faire de mal, je voulais pas. Je pensais pas que ça irait aussi loin cette histoire, j'ai pas fait gaffe. Ça m'arrive parfois, je te demande pardon, pardon, excuse-moi. Je voulais pas te faire de mal, je voulais pas. Mais même si c'est vrai qu'on peut plus se voir, je suis encore là, tu sais, et je veille sur toi.
Me laisse pas devenir un moine de vent, me laisse pas tout seul face au bord de la chambre. Me laisse pas devenir une coquille vide, une sale race. Me laisse pas devenir la guerre Montparnasse. Me laisse pas devenir une grande surface, une prise de tâche qui foire, une station balnéaire sur la barre noire. Me laisse pas comme une horloge cassée, pendue au mur, à prendre la poussière. Me laisse pas comme une église en plein hiver.
Je sais bien que t'es en colère, que t'aimerais bien que je revienne, rien que pour pouvoir me coller un bon coup de pied au cul. Ou une correction digne de ce nom. Je sais bien que tu t'en veux métier pour rien, il faut que tu l'acceptes. C'est la faute au coucou qui est dans ma tête, à tous mes tocs, mes tics et mes fixettes. Au chien effrayé qui aboie tout le temps à l'intérieur de moi. Je sais bien que tu m'appelles et je réponds pas. Mais dis-toi que j'ai juste pris la voiture et que je suis parti. Que je conduis la vitre ouverte, dans la nuit éclairée par la voie lactée. Je sais bien que tu comprends pas, mais peu importe le résultat. Ça change rien à l'amour que j'ai pour toi, je t'assure. Et un jour elles se refermeront tes blessures. Je te demande pardon, pardon, excuse-moi. Je voulais pas te faire de mal, je voulais pas. Je pensais pas que ça irait aussi loin cette histoire, j'ai pas fait gaffe. Ça m'arrive parfois, je te demande pardon, pardon, excuse-moi. Je voulais pas te faire de mal, c'était pas contre toi. Mais même si c'est vrai qu'on peut plus se voir, je suis encore là, tu sais, et je veille sur toi. Je suis le souffle du vent, je suis la pluie sur tes fenêtres. Je suis les courants d'air qui font claquer les portes. Je suis les craquements du parquet que la nuit emporte. Je suis le chat qui passe en silence sous le faisceau d'un lampadaire. Je suis les premières neiges. Je suis la lune qui éclaire la mer. Je suis les odeurs de l'hiver. Je suis le fracas des vagues contre la jetée. Je suis le cri des goélands. Je suis les embruns sur les rochers. Je suis tes voiles qui frémissent. Je suis l'eau vive qui court contre la coque de ton canot qui glisse. Je suis les parfums de genêt et d'ajonc au printemps. Je suis les bancs de sable qui découvrent. Je suis l'orage, le soleil qui perce entre les nuages. Je suis les gouttes sur ton visage. Je suis la vie autour de toi.
Bon retour sur Radio BLV 93.6. C'est toujours l'émission On ne mourra pas d'en parler. Et Pierre Chambaud vient de nous expliquer en détail le processus, le phénomène, on va dire, du deuil. Est-ce que, Pierre, on pourrait faire une petite synthèse, parce que c'était quand même dense et inattendu ce que vous nous avez raconté?
Eh bien, le deuil, le déroulé du processus de deuil, qui est différent du travail de deuil. Le processus de deuil, comme j'ai dit, est un processus physiologique, biologique, normal, et qui a une certaine durée. Sur 4 phases, comme je l'ai dit, phase de choc, phase de fuite et de recherche, phase de déstructuration et phase de reconstruction. La phase de choc peut durer quelques semaines, la phase de fuite et de recherche va durer, on va dire, 1 an. Déconstruction va durer 18 mois. Et reconstruction, eh bien, ça peut durer plusieurs mois. En gros, un deuil, c'est, faut compter entre 2 ans et demi et 3 ans.
Mais alors, dans ce cas-là, ça veut dire si, par exemple, je ne peux plus travailler pour m'occuper de mes enfants, pour retomber amoureuse, pour continuer à avoir des activités qui me plaisent, enfin, pour me sentir quand même vivre?
Alors, contrairement à ce qu'on pense, la vie continue son cours. La vie, c'est quelque chose qui s'écoule de toute manière. Donc, on peut se faire aider, on doit se faire aider très souvent. Et il est très important que l'entourage comprenne que la personne en deuil, c'est une souffrance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, l'important est qu'il y ait une souffrance émotionnelle. Donc, il faut être à l'écoute. Donc, soit on écoute, on ne donne pas de conseils, surtout pas. On écoute, on reçoit ce que la personne exprime. Parce qu'une personne en deuil n'est pas un retrait de la vie. Donc la vie existe de toute façon. On peut effectivement, comme tu dis, tomber amoureux. On peut continuer à vivre. Et puis de toute façon, il y a le quotidien à assumer. Alors, il peut y avoir des grandes difficultés. Et à ce moment-là, on peut se faire aider. Que ce soit par des psychothérapeutes ou par ce qu'on appelle les groupes de parole et d'entraide.
Comment ça se passe, ces groupes de parole ?
Les groupes de parole, ce sont des gens qui ont vécu des choses du même ordre, pas identiques. Il n'y a pas de deuil identique. Un deuil est fonction de la personnalité de la personne en deuil et de la qualité du lien d'attachement qui était créé avec la personne décédée. Donc les groupes de parole, ce sont des réunions de gens qui ont vécu des choses du même ordre et qui échangent. Et le seul fait de pouvoir parler permet d'émousser les émotions et permet de comprendre qu'on n'est pas anormal, puisque d'autres vivent la même chose que nous. Et c'est très très important, parce que les groupes de parole, ce sont des lieux où la parole est entendue, écoutée, sans jugement.
C'est très intéressant ce que tu dis, ça me fait faire un parallèle avec une action qu'on organise avec l'association Thanatosphère qui s'appelle les Cafés Mortels. Et jusqu'à maintenant, moi j'avais l'impression que la force du Café Mortel, c'était que les gens puissent venir déposer une parole. Et en fait, je suis en train de comprendre que l'important pour eux, c'est d'être entendus.
Tout à fait. C'est la chose la plus importante. C'est que les gens réalisent qu'ils sont écoutés et entendus.
Et qu'il n'y ait pas de conseils, qu'il n'y ait pas de commentaires de la parole qui est déposée.
Sans
jugement.
C'est ça
qui en fait sa force.
Sans jugement, sans commentaires, sans conseils.
Donc là, ce que vous venez nous exprimer, c'est un deuil qui serait finalement normal. Ça nous paraît très long parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir présenté de cette manière. Mais bon, souvent.
Tout à fait.
Et mais il y a quand même des moments où les deuils deviennent pathologiques ou difficiles ou, je ne sais pas, j'ai entendu aussi le terme de chronique.
Alors, c'est tout à fait exact. Ce dont j'ai parlé là, c'est ce qu'on appelle le déroulé du deuil dit normal. Mais il y a des deuils qui peuvent être un peu difficiles, qui peuvent être considérés comme compliqués ou même carrément pathologiques. Alors, classiquement, c'est ça. Le deuil difficile, c'est un deuil qui, de toute façon, va se faire d'une manière ou d'une autre, mais vu les circonstances, ça peut durer peut-être un petit peu plus longtemps, une phase qui est un petit peu plus longue qu'une autre, mais au final, le deuil se fait, se réalise. Après, on a ce qu'on appelle les deuils compliqués. Alors, les deuils compliqués, on reconnaît qu'il y en a à peu près 3. Il y a le deuil dit différé, le deuil qu'on dit inhibé et le deuil chronique. Le deuil différé, ce sont souvent des gens qui restent bloqués sur la deuxième phase. Ils n'arrivent pas à admettre, à réaliser au niveau émotionnel que la personne est disparue. Donc ça peut durer là, il n'y a pas de pathologie, mais ils sont bloqués là. Et puis on a ce qu'on appelle le deuil inhibé, c'est-à-dire qu'il y a un déni de réalité qui se fait parce que c'est trop douloureux. Donc on met à distance la réalité. Et en fait, le troisième, c'est le deuil chronique. Et le deuil chronique, c'est souvent, très 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 souvent, c'est parce qu'il y avait une relation un petit peu amour-haine avec la personne. Et on reste en deuil comme si c'était une auto-punition d'avoir un petit peu cette relation conflictuelle avec la personne décédée et qu'on idéalise. C'est très souvent ça. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les deuils pathologiques, mais là, ça relève de la psychiatrie. Ça peut être même très ennuyeux, ça peut être des décompensations psychotiques, ça peut être des névroses très importantes, et ça peut être des vraies dépressions.
J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut, par le biais d'un deuil, revivre d'autres deuils ?
Alors, très souvent, parce que notre vie est faite d'une succession de deuils. Et le deuil primordial, c'est au moment où on a été séparé de notre mère, quand on a coupé le cordon ombilical. Et certaines fois, d'ailleurs, on peut avoir un deuil qui va emporter tous les deuils précédents qui n'avaient pas été, comment on dit, faits, entre guillemets. Enfin, un deuil fait, c'est pas... Bon. Ça peut, en fait, résoudre tous les deuils précédents. C'est aussi très possible.
Oui, ce n'est pas l'histoire de « j'ai bien fait mon deuil », c'est qu'en fait, je poursuis ma vie, finalement.
Voilà, c'est exactement ça. Donc ça, c'est le déroulé du deuil. Voilà.
D'accord. Et donc, pour vous, ce n'est pas d'aller prendre des antidépresseurs, à ce que j'ai compris, hein. C'est plutôt d'aller rencontrer ses pairs pour chercher de l'accompagnement, de la compréhension, du soutien, des expériences communes et puis des thérapeutes si on a besoin d'être entendu.
C'est exactement ça. Les antidépresseurs peuvent être nécessaires, hein, une phase. C'est que dans la troisième phase, on est sur le fil du rasoir, hein, entre un vécu dépressif simple et une vraie dépression. Donc là, c'est très très ennuyeux, il faut faire très attention. D'où l'entourage est effectivement très important à ce moment-là. Les réseaux sociaux, le réseau social, pardon, personnel, le réseau de soutien est très très important.
Alors, je suis toujours étonnée par la façon dont, dans le droit du travail, enfin dans la société, le temps qu'on accorde aux personnes qui viennent de perdre un être cher, c'est 3 jours. Il n'y a pas de jour pour les grands-parents. Et depuis peu, pour les gens qui ont perdu un enfant de moins de 25 ans, c'est 8 jours et ça peut être aménagé à 15 jours. Donc, effectivement, quand on est dans le temps que vous exposez, c'est vraiment difficile. Et juste parce que je trouve ça intéressant, je mets ça en parallèle. Quand on se marie, on a droit à 6 jours de congé. Voilà. Et je pense qu'on est plus apte à se préparer à son mariage qu'à se préparer au moment où on va perdre un être cher. Voilà, je vous remercie beaucoup, Pierre Chambaud, pour ces informations. On mettra sur le site de l'émission vos coordonnées si des gens veulent s'interroger ou participer à un groupe deuil. Comme ça, ils pourront vous contacter directement. Moi, je vais en profiter ces dernières minutes de l'émission pour vous faire les petites actualités sur les thématiques liées à notre thématique de prédilection à On ne mourra pas d'en parler. Donc, il y a l'association Thanatosphère qui organise des ateliers à Valence. Donc, ça va commencer le 29 septembre, mais je pense que l'émission sera diffusée plus tard et c'est jusqu'au 10 novembre. Donc, il y a différentes thématiques. C'est réservé aux personnes de 60 ans et plus pour ces ateliers-là, pour ce cycle d'ateliers-là. Ça va des prestations funéraires à comment anticiper ses obsèques, à pouvoir créer des couronne de fleurs sèches pour aller fleurir la tombe d'un proche au moment de la Toussaint. Et puis aussi, de nouveau, pourquoi est-ce que c'est difficile de parler du deuil? J'ai vu aussi qu'il y avait un ciné-débat qui allait avoir lieu à Romans. Ça va être le 7 octobre à 20h au Ciné-Planète. C'est deux associations qui organisent ce ciné-débat. Donc, c'est sur la fin de vie. C'est le film « C'est de son vivant » d'Emmanuel Berco, que j'ai eu l'occasion de voir et que je trouve très intéressant. Il y a aussi un autre film qui va être le 3 octobre à Valence, à 20h. Donc là, de nouveau, c'est sur la fin de vie. C'est dans une thématique qui est plus basée sur la maladie d'Alzheimer. Mais c'est une personne âgée qui décède, qui est en train de vivre ses derniers moments accompagnée par sa fille avec toutes les difficultés que ça peut générer. Et puis, il y a la semaine bleue qui commence début octobre, et donc il y a énormément d'événements autour de, là c'est comment changer le regard sur nos aînés et avoir des informations aussi sur la thématique Ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Pierre, merci beaucoup pour ces informations. Je suis contente d'apprendre et puis de transmettre que, ben, en fait, un deuil, ça se fait pas en 5 minutes et que c'est normal d'être extrêmement malheureux et que ce soit une grosse épreuve. Et j'espère que ça va soulager de nombreuses personnes qui culpabilisent et qui s'en veulent de pas s'en sortir. Et il y a aussi des ateliers, on ne mourra pas d'en parler, sur un petit peu les mêmes thématiques que ce que j'ai évoqué pour Valence, qui vont se dérouler à la maison de quartier des Ors, à Romans-sur-Isère. Le premier atelier était ce matin, mais il y en a d'autres jusqu'au 15 décembre. Je vous laisse regarder sur leur site et leur page Facebook. Et par ailleurs, pour les activités de Thanatosphère, n'hésitez pas à regarder le site de l'association, thanatosphère.fr. Il y a une page agenda sur laquelle vous pourrez retrouver tous nos événements et il y en a de plus en plus. Il y a aussi les cafés mortels. Et si vous voulez accueillir un café mortel, vous pouvez aussi nous contacter ou si vous voulez monter avec nous un atelier, on ne mourra pas d'en parler ou faire venir dans votre structure. Merci beaucoup pour votre attention et au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Au revoir.
Tout se passe bien depuis votre mort ?
C'est pas de la mort est une fin normale en soi.
De l'émission fait suite à une journée transition funéraire organisée le 4 octobre dernier à Grenoble par Grenoble Alpes Métropole, à laquelle j'ai eu la chance d'assister. Il était question de réfléchir collectivement à l'évolution et rites et pratiques funéraires et aux alternatives écologiques qui se développent dans le domaine. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Manon Moncoq. Elle animait une conférence atelier sur les modes de sépulture alternatifs, dans laquelle elle présentait les pratiques les moins nocives pour l'environnement et les nouveaux dispositifs en cours d'expérimentation. J'ai aussitôt rêvé de l'inviter et elle a dit oui. Manon, je te remercie. Je te remercie d'autant plus qu'aujourd'hui, ce n'était pas forcément simple pour toi parce qu'il y a ton fils qui est là. Je le présente parce qu'il va peut-être intervenir vu qu'il est un très jeune enfant et qu'il n'a pas forcément tous les codes de la radio. Donc, ça ne nous gênera pas du tout puisqu'on trouve ça formidable qu'il y ait des petits-enfants à la radio si jeunes. Ça lui fera des beaux souvenirs pour plus tard. Donc, je vais te laisser la parole et j'aimerais que tu nous présentes ta profession et ton cursus universitaire parce qu'elle n'est pas courante. Et j'aimerais que tu nous dresses comme point de départ de l'émission, que tu nous dises ce qu'on entend en France par cimetière et aussi que tu nous indiques, tu nous recadres les possibilités actuelles offertes par la législation funéraire française.
Bonjour Agathe, bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de parler de ces thématiques aujourd'hui. Effectivement, à côté de mon petit garçon qui fera certainement quelques petites discussions lui aussi. Donc, je m'appelle Manon Moncoq, je suis anthropologue, alors spécialiste du funéraire, mais aussi de l'environnement. Je rédige actuellement une thèse de doctorat en anthropologie sur les funérailles écologiques. Donc, c'est un sujet que je connais un petit peu. Et en parallèle de tout ça, j'ai développé une activité de consultante intervenante pour essayer de mettre tout le bagage que j'ai pu avoir ces différentes années au profit d'organismes, soit du milieu funéraire, soit des collectivités territoriales, d'associations, etc. etc. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir mettre un petit peu en pratique tout ce que je peux apprendre. Et donc pour ça, j'ai fait une licence de sociologie-anthropologie, un master de sociologie-anthropologie. Et donc là, je suis en thèse d'anthropologie. Et en parallèle, j'ai aussi passé le diplôme de conseiller funéraire pour avoir aussi ce bagage un peu pratique du terrain sur lequel je suis allée de nombreuses fois et que j'adore particulièrement, notamment dans les pompes funèbres. Voilà, pour la petite présentation.
Merci. Donc,
avec plaisir. Donc maintenant, on commence un petit peu le sujet avec les cimetières, c'est ça, Agathe ?
Oui, s'il te plaît, parce que c'est vrai qu'on parle de cimetière, mais voilà, on ne sait pas. Il y a des règlements, il y a une règle. Qu'est-ce que c'est qu'un cimetière, en fait ?
Alors, au niveau, Au niveau de la loi, c'est très précis. Je suis pas spécialiste vraiment de ces détails législatifs-là, mais en tout cas, c'est généralement un lieu qui est clos, qui est bien distinct, on va dire, du monde des vivants aussi. Ça, en anthropologie, c'est quelque chose qui est très important. On va essayer de distinguer de toutes les façons possibles le monde des vivants et le monde des morts. Et le monde des morts, c'est celui généralement du cimetière. Et on voit, c'est des cimetières qui ont tous des murs, voire aussi des grilles hein, qui sont fermées généralement selon les horaires, par exemple. Et après, il faut savoir que chaque cimetière a aussi un cahier des charges très particulier. Et les familles peuvent se tourner vers ce cahier des charges pour savoir ce qu'elles ont le droit de faire ou pas au sein du cimetière, notamment par exemple en ce qui concerne les monuments funéraires. Parfois, il y a certains matériaux qui vont être interdits, notamment. Donc voilà, plein de petits détails d'un point de vue national en tout cas, et puis d'un point de vue plus local et même très spécifique à chaque cimetière, parfois au sein même d'une même collectivité.
C'est-à-dire que dans deux communes, il peut y avoir des réglementations de cimetières qui sont différentes ?
Absolument, notamment par exemple s'il y a aussi une période différente de construction du cimetière au sein de même commune, on peut avoir des cimetières vraiment très anciens qui datent de plusieurs siècles, et puis des cimetières plus contemporains qui ont été récemment créés ou des agrandissements aussi. Et puis aujourd'hui, avec la surpopulation des cimetières, les collectivités sont de plus en plus amenées à repenser justement ces territoires-là, et on voit des collectivités qui sont obligées de penser à la création de nouveaux cimetières parce que l'agrandissement peut être compliqué. Donc, le cahier des charges peut être totalement différent des anciens cimetières de la ville, par exemple.
D'accord. Et alors, par rapport à la façon dont on peut habiter un cimetière, on va dire, pareil, d'un point de vue de la législation et de ce qui est autorisé ou pas ?
Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les cimetières, c'est un lieu public par définition, mais en fait, chaque concession va être privée. Donc, ça veut dire que chaque famille va pouvoir, eh bien, réaliser ce qu'elle souhaite sur la concession qui lui appartient. Donc, il y a vraiment un champ des possibles qui est assez intéressant et dont on n'a pas toujours connaissance. Mais par contre, là encore, il est important de toujours se référer au cahier des charges du cimetière pour être sûr de respecter eh bien, le règlement intérieur, si on peut dire, du cimetière, pour respecter aussi eh bien, les autres usagers qui viennent se rendre au cimetière et puis les visiteurs aussi, bien sûr. Donc après, il y a tout le respect des règles courantes, pas de phrases qui peuvent porter préjudice à quiconque.
Sur les épitaphes, tu veux dire ?
Voilà, par exemple. Okay. Et à savoir que tous les épitaphes doivent être vérifiés par la mairie avant de pouvoir être installés sur la sépulture.
D'accord, il faut que ce soit soumis, que les textes soient soumis à la mairie. Oui. D'accord.
Absolument. Ça, généralement, c'est les familles peuvent voir ça directement avec les pompes funèbres qui ensuite s'occuperont dans la seconde partie de soumettre à la municipalité pour vérification.
D'accord. Et alors, par rapport à qu'est-ce qu'il y a comme une fois que les gens sont que le décès a eu lieu, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour les personnes par rapport, je me suis pensé à la crémation et à l'inhumation et aux conditions dans lesquelles celles-ci doivent être réalisées. Je voulais que tu reprécises peut-être le cadre de la législation française.
Alors, ce qui est possible comme lieu de sépulture, par exemple ?
Oui, et puis aussi, est-ce qu'il faut obligatoirement être dans un cercueil également pour la crémation et les inhumations ?
Alors, donc, on ne va pas reprendre toutes les étapes du rite parce qu'on n'aurait pas assez de cette émission, mais en gros, pour les grandes étapes, déjà à savoir que, par exemple, les soins de conservation ne sont pas obligatoires. Donc, c'est vraiment, ça doit rester un choix de la part des familles et qui lui est propre, absolument. Après, il y a quelques très rares cas d'obligation des soins de conservation, notamment s'il y a un rapatriement du corps dans un pays qui demande les soins de conservation. Mais voilà, de manière générale, les soins de conservation ne sont pas obligatoires en France. Par contre, le cercueil dont tu parlais, Agathe, à l'instant, lui est absolument obligatoire en France. Okay. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, certainement que la législation va se poser sur cette question-là, je pense, très prochainement, notamment, comme on le verra certainement plus tard dans l'émission, par rapport à d'autres modes de sépulture comme l'humusation ou le cercueil, eh bien, n'a pas à avoir lieu, ne doit pas être présent pour pouvoir faire un bon processus d'humusation. Donc le cercueil est obligatoire, mais par contre le capiton qui est à l'intérieur n'est pas du tout obligatoire non plus, donc là ça reste libre choix de la famille. Et ensuite, depuis 1887, la loi sur la liberté des funérailles en France, eh bien on a le choix entre l'inhumation, donc l'action de mettre en terre un défunt, donc toujours dans un cercueil pour la France aujourd'hui, et la crémation, qui est le fait de brûler le défunt, toujours dans un cercueil, et ensuite de réduire ses os en poudre, qu'on appelle plus communément les cendres. Voilà.
D'accord, donc le cimetière est un endroit clos, régi par la commune sur laquelle il est installé, avec des horaires d'ouverture, un mur d'enceinte, on disait, pour bien faire une séparation physique et symbolique entre le monde des morts et des vivants. L'inhumation et la crémation sont obligatoirement réalisées dans des cercueils. Donc merci pour ces précisions, Manon. Et peut-être maintenant, on va voir du coup quelles sont les possibilités ou quels sont les risques liés à aux pollutions pour les funérailles.
Alors ça, effectivement, c'est...
Parce que, excuse-moi, tu parlais de soins de conservation. Donc moi, finalement, oui. Je suis conseillère funéraire, donc j'ai une petite idée de ce que c'est, mais je ne suis pas certaine non plus que les auditeurs et auditrices aient l'information. Est-ce que tu peux nous préciser ce que sont ces soins de conservation ?
Eh ben voilà, on a eu une petite intervention. Alors, ce qui est important de distinguer, c'est les soins de conservation de la toilette funéraire. C'est pas du tout la même chose. La toilette funéraire, ça va être vraiment de laver, voire aussi habiller, maquiller le défunt, par exemple, si besoin ou si envie. Donc là, on va être plutôt sur quelque chose que moi, j'appelle de superficiel. On reste en surface du défunt. C'est pas obligatoire non plus, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait être effectué, même par les proches du défunt, s'ils le souhaitent, et qui ont à vocation, c'est un acte vraiment qui est rituel, qui est très important, et vous avez par ailleurs les soins de conservation qui là sont plus, qui ont plus à vocation de ralentir ce qu'on appelle le processus de thanatomorphose. Mmh. Ça veut dire que le corps, eh bien, après la mort, va se décomposer. C'est le processus de thanatomorphose. Et les soins de conservation vont donc avoir à vocation de les ralentir. On n'est pas du tout sur l'optique de l'embaumement comme il peut avoir été pratiqué en Égypte, par exemple, notamment. C'est pas du tout la même chose. Et donc là, ce que moi j'essaye, la façon dont j'essaye de les expliquer le plus simplement possible, c'est qu'on va venir remplacer les liquides corporels du défunt par des produits biocides qui vont donc venir toujours ralentir ce processus de thanatomorphose. Et ces produits biocides, actuellement, eh bien, ce sont des produits chimiques, dont du formaldéhyde, qui est considéré comme cancérigène. Donc c'est ça, en fait, qui pose problème aujourd'hui, notamment de la pollution et de l'approche écologique de cet acte-là. Mais il y a de plus en plus d'études qui sont réalisées pour essayer de trouver des alternatives plus naturelles à ces soins de conservation.
Les études, elles ont été réalisées par qui, par exemple ?
Alors, sur les soins de conservation, on n'a pas notamment de documents précis à ce sujet. Donc, je pourrais pas vous répondre à ce sujet-là. Par contre, pour faire une petite transition, vous avez la Fondation des services funéraires de la ville de Paris qui, en 2017, a demandé à Durapol Vertigo de réaliser une analyse environnementale comparative entre l'inhumation et la crémation pour savoir s'il y avait un des deux modes de sépulture qui était plus écologique que l'autre, par exemple.
D'accord. Et donc, cette étude de 2017, tu peux nous donner les résultats, par exemple ?
Oui, tout à fait. Alors, les résultats sont assez saisissants. Ce qui est très intéressant de constater, c'est que, en fait, le plus écologique du plus écologique, c'est ce qu'on appelle l'inhumation en pleine terre. Ça veut dire que l'on vient inhumer le cercueil, toujours parce qu'il est obligatoire, mais à même la terre, au sein du cimetière. On ne vient pas réaliser de caveau, une construction bétonnée dans le sol qui n'est pas obligatoire. Après, peut-être que certains cimetières le demandent selon, on va dire, le sol dont il est question dans le cimetière pour des questions peut-être de sécurité et d'assurance au niveau de la résistance de la sépulture, mais le caveau n'est normalement pas obligatoire. Et donc, en fait, une inhumation en pleine terre, c'est vraiment ce qui va être le plus écologique parce qu'on n'a pas, on ne vient pas agir sur le sol, on ne vient pas utiliser de béton dont la fabrication est très énergivore. Et il n'y aura pas de monument funéraire au-dessus, selon en tout cas l'étude qui a été faite. Et ensuite, suivi de très près, c'est la crémation. Donc c'est quasiment équivalent en termes d'émissions de CO2, inhumation en pleine terre ou crémation. Et par contre, de façon vraiment très 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 polluante, vous avez l'inhumation qu'on appelle avec caveau et monument funéraire. Ces monuments funéraires sont dans la majeure partie du temps importés. Donc là, vraiment, on vient exploser le bilan carbone. Et dans ce scénario-là, eh bien, c'est ce qu'il y a de moins écologique.
Alors juste, je vais peut-être, parce que moi, voilà, au sein d'une famille, effectivement, quand on est en train d'organiser des funérailles ou quand on subit la perte d'un proche, on a l'impression que c'est un acte, enfin un événement extrêmement individuel. Mais en fait, il y a combien de décès en France chaque année ?
Alors,
par exemple, l'année dernière, bon, je ne sais pas s'il y a eu un impact par rapport au Covid, mais bon.
Les derniers chiffres de l'INSEE dont j'avais pris connaissance, c'était 2020, et on était à quasiment 669 000 décès par an, pour l'année en tout cas en 2020 en France. Donc c'est énorme, et on n'a souvent pas conscience en fait de la quantité que ça représente tous les ans.
Oui, c'est un lourd impact en fait.
Absolument.
Un gros... Très bien, je te remercie. On va faire une petite pause musicale pour réfléchir au poids, finalement, de ces événements familiaux collectifs. Et on va choisir une thématique dans l'ambiance. C'est la chanteuse Suzanne qui nous demande où est le SAV, parce que la planète va craquer.
On a cassé la planète, il est où le SAV ? On a cassé la planète, et ça tout le monde savait.
Cactus, et sur ce même cactus, depuis y'a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y'a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive, dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffeur. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV ? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV ? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Y'a comme un air de chicha sur les buildings pékinois. Le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons. On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février. Y'a plus de glace sur les glaciers. Les sources polaires vont transpirer. Bulldozers dans les forêts. L'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner.
Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffeur. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe.
On a cassé la planète, il est où le SAV ? Tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV ? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Des choix pour que ces funérailles soient écolo, on va dire.
Eh bien, aujourd'hui, même si effectivement tout n'est pas forcément très écologique, les familles peuvent tout à fait faire des choix dans la législation en vigueur pour avoir des funérailles plus respectueuses de l'environnement. on va tout d'abord se tourner vers des fournitures en matériaux biodégradables, par exemple, ou en matériaux naturels. On peut, par exemple, favoriser une tenue du défunt en coton, en lin, en chanvre, par exemple, un capiton biologique, par exemple, aussi. Et puis, en cas de crémation, une urne biodégradable, si l'on souhaite. Et pour le cercueil, qui reste toujours obligatoire, plutôt se tourner vers un cercueil issu de bois français, de forêts durablement gérées. Et puis, on va limiter tout ce qui est cercueil avec des peintures, du vernis aussi. Donc ça, c'est tout ce qui est sur les fournitures funéraires. Limiter aussi les soins de conservation si possible. Et puis, se tourner vers donc un mode de sépulture plus écologique, comme je disais tout à l'heure, une inhumation en pleine terre ou une crémation, par exemple.
Et ces informations, les familles, les proches, ils peuvent les avoir facilement, par exemple, par rapport à la composition du cercueil?
Alors, il ne faut pas hésiter de demander aux pompes funèbres, vous avez tout à fait le droit. Et généralement, sur les catalogues, c'est quand même précisé la provenance du bois et puis tout ce qui a été, un petit peu tous les ingrédients du cercueil sont normalement précisés sur le catalogue que doivent vous montrer les pompes funèbres. Et pas hésiter à leur poser des questions, ils sont là pour ça et ils seront ravis de répondre à vos interrogations.
Et j'ai une question, bien sûr, sur le cercueil en carton. Est-ce qu'il est plus écolo? Est-ce qu'il est légal pour les crémations et les inhumations? Enfin, si tu peux nous faire un peu un éclairage.
Alors, il y a beaucoup de débats sur les cercueils en carton. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, c'est la seule alternative qui existe par rapport aux cercueils en bois, parce que la législation est très contraignante, en fait, sur les différents aspects auxquels doivent répondre un cercueil. En tout cas, les cercueils en carton existent. Ils sont aujourd'hui légaux pour la crémation, mais aussi pour l'inhumation. Vous avez un seul modèle, pardon, à l'heure actuelle, qui est possible pour l'inhumation, mais par exemple, au cimetière naturel de Souchez à Niort, vous avez des inhumations qui sont effectuées dans ce cercueil en carton-là, sans problème. Pour la crémation, la seule chose sur laquelle on peut débattre, c'est en fait le fait qu'un cercueil en bois va venir participer à son autocombustion, parce que le bois, ça brûle facilement, et une fois qu'il commence à se consumer, il va se consumer tout seul. Alors que pour le cercueil en carton, c'est une autre approche qu'il faut avoir, et il faut mettre un petit peu plus d'énergie et de temps pour que le cercueil en carton brûle correctement. Mais les agents de crématorium ont tout à fait la possibilité d'agir là-dessus et c'est tout à fait autorisé. Il n'y a pas de crématorium qui peuvent refuser le cercueil en carton.
D'accord. Je voulais juste revenir un instant sur les soins de conservation, parce que tu disais qu'il s'agissait de remplacer les fluides corporels par des liquides biocides. Est-ce que tu as une estimation de ce que ça représente comme quantité?
Oui, alors tout dépend de la corpulence du défunt et aussi de l'état dans lequel il est, mais il faut compter à peu près entre 6 et 10 litres de produits biocides qui est injecté dans le défunt.
D'accord, et ça représente à peu près quel pourcentage de personnes qui ont recours aux soins de conservation?
Alors selon les dernières données qu'on aurait, ça serait à peu près 40% des défunts qui ont recours aux soins de conservation.
D'accord, je fais juste un petit calcul rapide. Si tu nous parlais de 669 000 décès, donc 40% de ces personnes, et je multiplie par, on va dire, peut-être 8 litres de ces produits biocides, donc je ne sais pas s'il se dégrade facilement. En tous les cas, j'arrive à un résultat quand même assez édifiant, qui est de plus de 2 millions de litres, enfin plus 2 140 800, 800 litres de produits biocides qui seraient ainsi, parce que c'est du coup, c'est soit... Ça part dans la crémation, donc à ce moment-là, ça peut se retrouver dans les fumées des crématoriums, ou alors ça va rester dans le sol, j'imagine.
Totalement. En fait, dans les deux cas, il y aura forcément à un moment donné où les soins de conservation vont soit se répandre dans nos sols et nos nappes phréatiques, soit se répandre dans l'atmosphère. Donc c'est une vraie question de public, en fait.
Et en Europe, il y a un tel recours aux soins de conservation ou c'est une spécificité française?
Par exemple, ce que disait Martin Julien Coste à Grenoble, je crois, c'est que les soins de conservation sont par exemple pas du tout pratiqués en Suisse, qui est quand même un pays limitrophe à la France. C'est vraiment très, très inscrit dans la tradition, en fait, en France, je crois, les soins de conservation.
D'accord. Donc, en fait, si c'est inscrit dans... Enfin, si c'est culturel, il y a des évolutions qui peuvent être réalisées au fur et à mesure qu'on ait des informations et qu'on se positionne vis-à-vis de ces possibilités. Donc, c'est vraiment au moment du choix des prestations funéraires que les gens peuvent faire valoir quelles sont leurs priorités.
Tout à fait. Et il y a d'autres façons de conserver nos défunts pour pouvoir se recueillir auprès d'eux et garder une belle dernière image.
D'accord. Tu parlais du cimetière naturel de Souchez. Est-ce que tu peux... C'est des initiatives locales qui proposent de considérer les cimetières différemment ou une gestion des cimetières différente ?
Absolument. En fait, ce qui est super intéressant avec le cimetière naturel de Souchez à Niort, c'est que c'est le premier cimetière naturel de France qui est né en 2014 et à l'heure actuelle, je crois que c'est le seul d'ailleurs. Donc en fait, un cimetière naturel, il faut le distinguer d'un cimetière écologique par exemple ou paysager. Le cimetière naturel, il va vraiment avoir un cahier des charges très précis. On en revient toujours. Donc là, par exemple, dans ce cimetière-là, on va avoir des soins de conservation qui vont être interdits sauf cas d'extrême nécessité. On ne va pas avoir d'inhumation en caveau, ça sera que de l'inhumation en pleine terre avec un cercueil. Mmh. Et il est demandé aux familles de faire des choix de fourniture en matériaux biodégradables et naturels. Et les sépultures vont être végétalisées ou avec, par exemple, des monuments funéraires en pierre locale, par exemple. Après, vous avez d'autres cimetières en France qui vont aussi se rapprocher de ces initiatives-là, mais parfois avec un cahier des charges moins strict. Mais on va essayer de demander aux familles de se tourner vers des inhumations sans caveau, des tombes végétalisées. Et puis avec la loi du 1er juillet dernier, en fait, les municipalités n'ont plus le droit d'utiliser des produits chimiques pour entretenir les cimetières qui sont des espaces verts. Et donc, ceux-ci vont tendre à la végétalisation. On va avoir de plus en plus de cimetières paysagers et végétalisés. Donc, voilà, l'offre va se développer et de plus en plus de communes essayent de proposer des cimetières un peu alternatifs aux cimetières très, très minéraux qu'on a jusqu'à aujourd'hui.
Très bien, donc ça veut dire qu'il existe des perspectives, il y a un changement de la société qui est en train de prendre conscience de ces problématiques et de proposer des alternatives. Je te remercie Manon pour toutes ces informations, également pour les conseils pratico-pratiques qui peuvent nous permettre de nous repérer un peu dans ces nouvelles préoccupations à un moment où c'est souvent difficile d'y voir clair. J'aimerais qu'on puisse refaire une autre émission parce que c'est vraiment très riche et j'ai l'impression que de plus en plus de personnes se préoccupent de ces thématiques, que même les communes s'en emparent. D'ailleurs, ton métier, c'est aussi de les renseigner et j'en suis ravie. Et on termine l'émission par notre calendrier. Donc, c'est la Toussaint. Certaines communes organisent des visites dans leur cimetière. Je vous laisse vous renseigner auprès des communes concernées. Souvent, sur le site de la mairie, vous aurez des informations. Et n'oubliez pas que le week-end de la Toussaint génère d'importants flux de personnes. Alors, pour éviter les embouteillages, la circulation peut être modifiée. Renseignez-vous avant de vous déplacer. L'association Thanatosphère propose à Saint-Péret un café mortel le jeudi 10 novembre. C'est au café Le 101, 101 rue de la République, de 9h30 à 11h30. Ce sera notre premier café mortel ardéchois. L'entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. À Valence, cette fois, Thanatosphère proposera le jeudi 10 novembre un atelier sur le deuil et la mort et pourquoi il est si difficile d'en parler. De 14h à 16h30, cette fois-ci c'est sur inscription auprès de l'association, soit via notre site internet www.thanatosphère.fr, sinon au téléphone 06 03 82 15 00. À Romans, vous pourrez assister, participer à un atelier pour s'informer sur le funéraire et comprendre l'organisation des obsèques. On pourra évoquer des thématiques qu'on a abordées aujourd'hui avec Manon. Ce sera le jeudi 21 novembre de 10h à midi, entrée libre dans la limite des places disponibles et c'est à la maison de quartier des Ors, qui est 26 rue Magnard. De nouveau à Valence, le mercredi 23 novembre, il y a le café mortel mensuel du Cause Toujours de 18h30 à 20h30. Et enfin à Lyon, Funexpo, le salon du funéraire, se tient du 17 au 19 novembre au parc des expositions et c'est là qu'on enregistrera la prochaine émission pour interroger les professionnels du funéraire, repérer les nouvelles tendances et se renseigner sur les attentes du public. À bientôt.
Tout se passe bien depuis votre mort ?
C'est pas de la mort est une fin normale en soi.
On ne mourra pas d'en parler. Bonjour, c'est l'émission de la rentrée de On ne mourra pas d'en parler. Ravi, on s'était quitté il y a quelques temps, il y a eu plusieurs rediffusions et finalement, on poursuit l'aventure une mensuelle en essayant de s'y tenir avec la complicité de Clément qui nous propose des enregistrements dans les conditions du réel, ce qui m'épargne la technicité pour laquelle j'ai assez peu d'appétence. Donc aujourd'hui on est en studio et ben on s'est rassemblés à plusieurs pour pouvoir faire une émission vivante. Donc moi, Agathe Bénard, toujours qui anime et qui programme l'émission. Et puis j'ai décidé de vous faire vivre un peu l'intérieur de ce qu'on peut découvrir avec Thanatosphère ou ce qu'on peut... organiser ou créer. Récemment, on avait reçu un mail sur le mail de l'association d'une autrice qui nous indiquait sa présence et qui nous mettait en lien le site pour qu'on puisse voir ses réalisations. Et en particulier, elle nous sollicitait parce qu'il y a un livre qui s'appelle Soul qu'elle a écrit, qui traite en particulier de la mort, en particulier pour le public des enfants. Et j'ai regardé le site, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Donc bien sûr, le site sera consultable sur l'interface de l'émission, vous pourrez aller regarder. Et du coup, de fil en aiguille, on s'est rencontrés avec Joëlle. En plus, elle habite pas loin, elle habite à Cray, et on a eu envie de construire une action avec elle, et on l'a fait récemment. Donc pour ceux qui habitent dans la vallée de la Drôme, peut-être ont-ils même assisté à l'action. C'était un atelier intergénérationnel qui a été programmé dans le cadre de l'action « Et si on parlait de la mort » qui s'est déroulée en septembre-octobre à Housse-sur-Scie. Et donc c'était un atelier autour de cet album, Soul. C'est une jolie histoire poétique dont je vais vous laisser l'autrice en parler. Donc en studio, il y a l'autrice, Joëlle Stauffacher. Et puis comme c'est pour les enfants, on y a aussi décidé de faire venir en direct le public de l'album qui pourra nous parler de ce qu'il pense de cette histoire, des images et puis peut-être aussi généralement de la mort quand on est un enfant. Joëlle, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là, je suis vraiment ravie. Donc on est toutes les deux avec nos albums de Soul sous la main pour pouvoir détailler. Donc est-ce que, comme les auditeurs ne sont pas là, est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous décrire, nous raconter Soul s'il te plaît?
Avec plaisir, Agathe. Soul, c'est une histoire que j'ai écrite il y a quelques années, alors que je traversais un moment compliqué de ma vie, douloureux on va dire. Et j'avais pour habitude d'aller m'asseoir au pied d'un arbre au bord de la rivière Drôme pour me ressourcer, pour réfléchir, écrire. Et puis un matin, j'arrive au bord de la rivière et cet arbre est couché. Il a été déraciné, c'est vrai qu'il y avait eu des grands vents, beaucoup de pluie les jours qui ont précédé. Et cette vision, cette image de cet arbre couché dans l'eau, comme ça, m'a immédiatement parlé. Je me suis dit, il faut que j'écrive là-dessus, il faut que j'écrive sur la perte. Il faut que j'écrive sur le deuil. Et cet arbre en était le symbole.
Donc en fait, cette petite Belinda, c'est un peu toi?
Mince, je suis percée à jour. Oui, Belinda, effectivement, elle traverse beaucoup d'émotions et de choses qui sont issues de mon vécu. Mais pas uniquement. Hein. Mais oui, beaucoup. Ouais.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'effectivement, on en parle par métaphore et puis ça parle de la perte, parce que souvent, on associe le deuil à la mort d'un proche, d'un autre humain, alors qu'en fait, on peut vivre tout un tas de deuils, en particulier quand on est enfant. On peut perdre des affaires très chères, on peut perdre des animaux qui sont pour nous avec lesquels on a souvent des liens extrêmement proches. Et c'est ça que j'ai aimé, cette approche qui était... un peu universel sur le thème de la perte, en fait, que ce n'était pas juste des relations humaines qui pouvaient s'éteindre.
Oui, absolument. En fait, j'ai choisi l'arbre parce qu'il y a un rapport au vivant, en général, en fait, qui passe au travers de Saul. Et donc, ça peut être les proches. En fait, c'est un symbole très fort, parce que l'arbre, ça peut être aussi l'aîné, le parent, la personne sur qui on s'appuie, mais ça peut être aussi la nature, enfin... Voilà, on peut avoir une vision plus large, effectivement. Mais pour moi, c'est symbolique. Ouais.
Et puis, c'est vrai qu'on parle de l'arbre généalogique en même temps. Donc, c'est
aussi,
ça peut représenter
c'était rempli de sens, ouais.
La famille. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la façon dont Melinda et ses amis, donc c'est cette petite, je ne dis pas une petite fille, parce que c'est un individu, un être un peu féerique. Elle a toute une relation avec la nature pour un peu trouver des ressources, pour faire une cérémonie pour son ami arbre. Et je trouve ça extrêmement joli, la dimension de comment est-ce que... Donc, ils vont tous se rassembler pour faire eux-mêmes des décors pour mettre en valeur l'arbre et pour lui rendre hommage de manière à accompagner son départ et puis à se réparer, à accepter qu'il ne soit plus là.
Oui, il y a un passage dans le livre où elle, quand Belinda commence à construire ce qu'elle appelle le souvenir, où à la place des branches de saule, il n'y a plus que le ciel. Et puis à la place de ses racines, il y a un trou. Et donc elle vient combler ce trou en ramassant des pierres, des branches, des fleurs, etc. Et c'est vraiment le travail qu'on fait quand on se recueille, quand on met des photos de son proche autour de soi, quand on revient, on revisite la relation. Et là, elle crée quelque chose.
Ouais. Et je crois justement que voilà, il y a l'aspect poétique qui est très fort avec des très jolies illustrations dans ton album. Mais du coup, je crois qu'il est, vraiment aussi très cohérent sur le thème de qu'est-ce qu'on traverse quand on vit une perte et comment est-ce que les gens arrivent à se réparer et à faire du collectif pour se soutenir. Et d'ailleurs, à la fin de l'album, il y a un livret qui permet aux parents ou aux proches d'un enfant de l'accompagner dans comment est-ce qu'on peut parler de cette thématique, comment on peut faire des activités. Enfin, et c'est ça qui aussi, je trouve, très intéressant et qui, à mon sens, indique que ton livre, il est très pertinent sur cette thématique-là.
Merci. C'est vrai que à l'époque, quand je l'ai écrit, je me suis basée sur ma propre expérience et je me suis basée aussi sur des lectures, évidemment, sur les différentes étapes du deuil, mais beaucoup sur mon ressenti et mon émotionnel à moi. Parce que là, on va parler de Sophie et de la partie livrée, donc j'ai été accompagnée, plus qu'accompagnée, en fait, Sophie Gidrol, qui est palliatothérapeute, a créé les activités qui suivent cette histoire. Elle avait découvert Saul de son côté et on s'est appelés pour se contacter, pour en parler. Et c'est vrai que c'était une inquiétude que j'avais, que je ne sois pas en fait complètement légitime quand j'ai écrit l'histoire, n'étant pas spécialiste du deuil ou psychologue. Et Sophie m'a vraiment donné cette confiance que ce travail, même s'il était fondé sur mon émotionnel, il était universel en quelque sorte.
Alors, c'est bien de parler de Sophie Gidrol, effectivement, parce que moi, j'ai découvert ce métier qu'elle exerce, que je ne connaissais pas du tout. C'est palliatothérapeute. Et on a décidé de l'inviter. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que Sophie Gidrol, elle habite pas du tout par ici. On va la laisser peut-être nous indiquer d'où elle nous parle quand elle va nous parler. Et on va lui demander peut-être de nous expliquer qu'est-ce qu'elle a trouvé de si intéressant dans le travail de Joël qui a fait qu'elle ait décidé de collaborer sur ce livret d'activités pour accompagner les parents ou les proches d'un enfant. Sophie, est-ce que tu nous entends ?
Oui. Alors, je vous entends très bien. Merci à vous de m'avoir invitée. C'est vrai que pour me présenter brièvement, j'ai une activité donc de thérapeute sur toutes les thématiques autour de la perte. Donc avant, comment on se prépare à la perte et ensuite comment on traverse son chemin de deuil pour la famille, aussi bien les enfants, les parents qui deviennent orphelins, à tout âge de la vie, parce qu'on peut être confronté à la perte à tout moment de sa vie. Et donc cette activité de thérapeute, j'ai eu à la mener de différents endroits, parce que j'ai été aussi appelée à ouvrir la première unité de soins palliatifs de l'île Maurice. Maintenant je suis au Kenya, enfin vous voyez, c'est un petit peu varié, mais avec le distanciel, on arrive à faire beaucoup de choses. Et en effet, je suis ravie d'avoir collaboré avec Joël à la création du livret pédagogique autour de Saul, parce que Saul est un album comme le deuil, quelque chose de très intime, mais d'universel. C'est-à-dire qu'on sera tous amenés un jour à être endeuillés. Et donc, de parler aux enfants du deuil, c'est aussi outiller les enfants. Et ça, c'est primordial, parce que s'outiller en dehors des moments traumatiques, c'est là où les adultes référents peuvent donner des clés plus objectives et sereines que quand on est sous le coup de l'émotion. Parce que quand la famille est impactée par une perte, par une maladie grave évolutive, forcément, ça fausse les cartes. On n'est pas les mêmes, on ne donne pas les mêmes réponses, on n'a pas du tout les mêmes façons de voir les choses. Donc, c'est important de pouvoir parler de ces sujets-là en amont. Vous voyez, je fais souvent le parallèle avec l'éducation sexuelle, c'est-à-dire qu'il faut parler, mais avant. Ce n'est pas quand on est confronté aux choses qu'il faut se mettre sur le sujet. Donc, vraiment, Saul, quand je l'ai lu, j'ai fait des pieds et des mains pour rencontrer Joël, parce que j'avais beaucoup d'idées pour ce livret pédagogique. Et voilà, j'ai fait une réponse un petit peu longue, pardon Agathe.
Non, et c'est aussi le dessin qui t'a attiré, parce que moi je trouve qu'il y a un dessin qui est vraiment qui permet plein d'imagination, enfin qui invite vraiment à l'imagination. Et il y a quelque chose de très aussi rassurant.
Exactement. Il y a les deux. Il y a la douceur du texte, parce que Joël a cette sensibilité-là, c'est son côté vraiment artiste de pouvoir capter avec les mots. Il y a des phrases qui viennent nous toucher, nous, adultes, en plein cœur, et qui sont tout à fait adaptées aux enfants. Donc, c'est aussi bien le texte que Belinda, qui est aussi un être pour moi un peu irréel et en même temps qui a les émotions d'un être humain. Et donc, c'est mettre le sujet un petit peu à distance pour les enfants. Ça leur fait ce filtre sans les projeter directement. Et donc, pour moi, c'est vraiment très adapté.
Et donc, ce que tu conseilles, ce que tu disais tout à l'heure, qu'en fait, Belinda, enfin, cette histoire de Saul, c'est pas à un moment où on a une perte, mais c'est juste dans l'histoire des livres qu'on partage avec ses enfants. Ça peut être n'importe quand qu'on le lit, puisque c'est pour donner des outils et des clés à un moment où forcément, comme tu rappelles, on va être confronté à des pertes, des deuils.
Mais tout à fait. Et surtout, les enfants posent les questions. Donc, pour moi, ce qui serait idéal, c'est que dans chaque famille, on puisse à un moment trouver le courage pour les adultes d'aborder cette question, de pouvoir répondre aux enfants et de dire « Ah bah écoute, c'est une très bonne question ce que tu me demandes, est-ce que grand-mère va mourir ?» Comment je réponds à ça? Pour l'instant, je ne sais pas, mais je vais aller me renseigner. Et puis, rencontrer Saul et voir l'histoire, parce que l'histoire, c'est bien gentil pour les parents de lire des histoires à leurs enfants, mais ensuite, ils font quoi avec les questions? Et Saul, avec ce livret pédagogique, le but, c'est de pouvoir aussi répondre aux questions. Comment on parle de la mort à un enfant de 56 ans? Parce que la mort, ça reste un concept. Alors que là, il y a tout au début, je ne sais pas si vous avez vu Agathe, mais il a fini de vivre, son cœur s'est arrêté. C'est quelque chose de concret, la mort. Et ça fait que pour un enfant, c'est important. Moi, les enfants en consultation, ils me demandent, mais est-ce qu'il a une fenêtre sur son cercueil? Mais est-ce qu'il va avoir froid? Et donc, c'est des questions très pragmatiques que les enfants se posent. Donc, il faut pouvoir répondre à ces questions. Si on ne parle pas, ça rajoute du tabou. Et c'est l'inconnu qui fait peur.
Oui, et
donc,
c'est vrai.
Soulevons le voile, mais bien sûr.
Je ne m'étais pas rendu compte à ce point que, en fait, chacune des étapes, elle s'est incarnée par des actes, par des réalités. C'est-à-dire, elle est en colère, elle saisit sa petite brindille, donc il y a les différentes étapes de ce qu'on peut vivre à travers un deuil. Et après, ils se réunissent, donc on les voit tous se réunir, ils commencent à créer un événement pour rendre hommage à Saul, se retrouver, qu'est-ce qu'ils aimaient bien faire ensemble. Enfin, c'est toujours en train d'être incarné par des actions. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était... Il y avait un côté, du coup, très didactique dans le récit, finalement.
Dans le récit, et on retrouve les étapes du deuil. Donc, Joël nous parlait de son témoignage, mais en même temps, voilà, c'est dire qu'elle a su retransmettre. Ce n'est pas un livre... c'est pas un truc théorique, c'est vraiment pratique. Et donc, on retrouve pour moi, en tant que professionnelle, de pouvoir, quand Belinda est très en colère et qu'elle voudrait que cette tempête ait jamais existé, eh bien, ça nous donne vraiment le déni en disant « Mais non, mais je n'ai pas envie. Pourquoi il est mort? C'est pourquoi lui? Pourquoi maintenant ?» Toute cette période aussi de colère et de révolte que peuvent traverser tous les êtres humains, j'allais dire les plus jeunes, mais non, c'est le chemin de deuil.
Et ben merci en tous les cas beaucoup pour cet éclairage. On mettra les coordonnées de votre site, parce que je crois que vous travaillez justement en distanciel et que c'est pas parce que vous êtes au Kenya qu'il y a que les Africains qui peuvent profiter de vos lumières et que de France aussi, on peut aussi avoir des suivis avec vous. On mettra aussi les coordonnées de Saul. Eh ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si Joël, tu veux rajouter quelque chose.
Non, c'est super. Merci Sophie.
Merci. On va faire une petite pause musicale et puis après, on va explorer la réalité des ateliers et peut-être des témoignages d'enfants qui pourraient y participer.
Thank you. c'est tellement loin. Et tout bascule en une seconde, un avenir incertain. Tu brilleras parmi les étoiles, tu veilleras sur les tiens. Sur terre pour quelques heures d'escale, puis ensuite tout s'éteint. J'ai quelqu'un tout là-haut, arrivé bien trop tôt, qui rend mon ciel plus beau et me guide quand j'ai tout faux. J'espère que tu vas bien de l'autre côté, perdu de te savoir si loin. Maintenant tu brilles tout là-haut, hey, tu brilles tout là-haut, tu fais danser les anges, danser les anges. Tu brilles tout là-haut, hey, tu brilles tout là-haut, tu fais danser les anges, ouais, danser les anges. Je m'isole dans mon propre monde, mais je dois faire attention à ne pas repousser ce qui reste pour pas perdre la raison. Tellement égoïste d'avoir de la peine, de se sentir triste et d'avoir de la haine. J'ai quelqu'un tout là-haut, arrivé bien trop tôt, qui rend mon ciel plus beau et me guide quand j'ai tout faux. J'espère que tu vas bien de l'autre côté, perdu de te savoir si loin. Maintenant tu brilles tout là-haut, hey, tu brilles tout là-haut, tu fais danser les anges, danser les anges. Tu brilles tout là-haut, hey, tu brilles tout là-haut, tu fais danser les anges. Maintenant tu brilles tout là-haut, tu brilles tout là-haut, tu fais danser les anges, tu brilles tout là-haut, tu brilles tout là-haut, tu fais danser les anges, les anges.
Eh ben, merci beaucoup Joël et Sophie pour cet éclairage. Alors on va maintenant revenir sur des choses qui soient plus pratico-pratiques, comment les choses se passent. Donc moi je vous ai dit comment j'avais rencontré Joël, après j'ai automatiquement été acheter son livre et puis surtout qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai lu avec mon fils qui a dans les âges conseillés pour l'album, il a 10 ans. Donc j'ai pensé que le plus intéressant pouvait être de lui demander comment il avait trouvé le livre et qu'est-ce qu'il avait pensé de l'album. Et donc Armand, qu'est-ce que tu as pensé de Saul après l'avoir lu?
J'avais trouvé ça assez bien. C'est vrai que ça ouvre de nombreuses portes dès que ça nous arrive. Ça m'a fait penser à plein de choses. C'est assez bien.
Et j'ai aussi invité une amie d'Armand, Colline, pour avoir plusieurs voix. Et toi, Colline, qu'est-ce que tu as pensé du livre? Tu l'as découvert hier?
J'ai bien aimé la façon dont il a été écrit. J'ai aimé aussi les dessins. Et je trouve que c'est très réel à ce qui peut se passer quand on perd quelqu'un, un animal ou un arbre, comme dans le livre.
Est-ce que toi, tu as perdu quelqu'un de cher, un animal ou un être ou un objet?
Eh bien, moi, j'ai perdu mon chat, que j'aimais beaucoup. J'étais très triste et donc on l'a enterré.
Et tu l'as enterré toi-même? C'est toi qui as fait la sépulture?
Oui.
Et tu peux nous la décrire parce qu'elle est très jolie, la sépulture, je trouve, dans Belinda. Toi aussi, tu as fait attention à la décoration?
Oui, alors... On l'a enterré, on a recouvert de terre et puis après on a mis une jolie pierre dessus pour faire une sorte de tombe un petit peu. Puis voilà.
D'accord. Et tu vas la voir de temps en temps?
Oui, de temps en temps.
Et c'est important quand tu passes à côté de la sépulture? C'est dans un endroit que tu connais? C'est dans un cimetière pour animaux ou c'est...
Non, c'est dans mon jardin.
D'accord.
Et oui, ça me fait plaisir de passer devant. Ça me fait penser au moment qu'on a passé ensemble.
Mmh. Et toi, Armand, est-ce que tu as vécu des pertes importantes?
Non.
Non?
Non.
Et quand vous disiez que vous avez bien aimé le livre, moi je trouve qu'il y a beaucoup de liens avec la nature dans le livre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez apprécié?
Moi, oui.
Qu'est-ce que tu as préféré, la façon dont elle dessinait Joël? Tu te souviens?
C'était assez rigolo, tous les animaux qui pouvaient marcher normalement, enfin comme nous, qui venaient tous se rassembler. C'était assez fantastique.
Mmh.
Moi aussi, je trouve que c'est très fantastique. J'ai bien aimé le lien avec la nature parce que on parle pas souvent des gens qui sont tristes parce qu'un arbre est mort ou une plante, une fleur. Je trouve que c'est assez bien quand même.
Et vous avez déjà ressenti ça dans les paysages que vous aimez bien ? Tout d'un coup, il y a un changement et ça vous rend triste ?
Moi, derrière le jardin de chez mon père, il y avait une grande forêt et ils ont tout coupé.
Et ça t'a attristé ?
Oui, parce que cette forêt, je l'aimais bien. J'aimais bien aller à l'intérieur. On avait fait même un passage avec mon frère et mon père et c'était chouette de passer dedans.
Et maintenant, tu t'en souviens quand tu passes ? Il y a des maisons, j'imagine ?
Non, il n'y a pas encore de maison. Enfin, peut-être qu'ils vont construire, je ne sais pas.
Moi, oui, ça m'est déjà arrivé. C'était chez mon père. Il y avait un grand châtaignier. J'avais l'habitude de monter dessus. Je faisais plein de trucs. J'avais construit une cabane dedans. Je l'adorais. Chaque fois que j'étais triste, je restais tranquille en haut de l'arbre. Et un jour, il y avait eu énormément de pluie et il était seulement sur une petite terrasse. Donc, il s'est effondré. Et c'était un jour où j'étais pas là. Donc, quand je suis rentrée, j'ai vu qu'il manquait un truc. On était loin, mais j'ai vu qu'il manquait un truc. Et quand on est arrivé, j'ai vu qu'il n'y avait plus l'arbre.
Et t'as fait quelque chose ? T'as été le voir ?
Oui.
Et tu l'as touché quand il était couché ?
Oui.
Ça t'a fait comme un au revoir ? Tu lui as dit comme un message ? Et maintenant, tu continues à aller le voir ou il a été coupé depuis ?
Oui, il a été coupé depuis.
Et tu te souviens de lui ? Ok. Oui.
Moi, j'aurais une question pour vous, les enfants. Dans le livret, à la fin, on voit Belinda et Charlie qui sont penchés sur une petite pousse de saule. Donc c'est un nouveau saule qui pousse et c'est en fait l'arbre leur a laissé comme souvenir, comme trésor qu'ils vont pouvoir garder en eux pour l'avenir dans leur cœur. Est-ce que vous avez un petit trésor, un souvenir que vous a laissé toi Colline ton chat et ensuite toi Armand ton châtaignier?
Moi par exemple pour mon chat c'est les câlins qu'on faisait. Enfin, elle était toute douce et elle voulait tout le temps des caresses. Elle faisait que des bisous. Elle restait souvent sur le canapé et elle venait sur nous tout le temps. Elle demandait des câlins 24 heures sur 24. C'était super.
Merci, Colline. Et toi, Armand ?
Je me souviens quand... quand je pouvais en... Je me souviens quand je pouvais bien grimper, il restait toujours là. Dès que je me sentais triste, suffisait d'aller le voir et ça allait mieux.
C'est chouette. Merci.
Et toutes ces richesses qu'ils vous ont transmises, vous les avez encore dans votre cœur ? Toi, quand tu penses à ton chat, tu penses à toute la douceur de son poil ?
Oui, je pense à... à sa douceur, à sa gentillesse.
Et toi, Armand, quand tu penses à ton arbre, est-ce que ça te réconforte ?
Oui.
Donc finalement, ils sont encore un peu là,
oui.
Avec leurs effets bénéfiques. Merci, les enfants. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, ça va.
Du coup, Joël,
ouais.
Est-ce que c'est un témoignage fidèle de ce que peuvent vivre les enfants quand ils parcourent ton album, à ton avis ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont lu l'album, mais ils n'ont pas fait l'atelier, donc ils n'ont pas fait les activités. Moi, ce que je peux constater quand on fait l'atelier avec les enfants, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose en eux de prise de conscience. Et c'est presque un soulagement. Moi, j'ai... Un petit garçon qui m'a dit la dernière fois, en tapotant son cœur, comme ça, il m'a dit « Mais ça, c'est fou, ça m'ouvre ici. » Et là, je sens que je vais pouvoir en parler autour de moi, je vais pouvoir en parler à mes parents. Ça lui a fait vraiment comme une chape de plomb qui tombait, quoi. C'est un sujet qui est plus tabou, on peut en parler. Et c'est le fait de faire les ateliers, de pouvoir libérer la parole en douceur, ensemble, dans un cadre sécurisant.
sécurisée qui provoque ça.
Oui, et puis comme dans ce qu'il y a dans Soul, c'est-à-dire on les voit cheminer finalement concrètement dans les émotions du deuil, où ils se rassemblent, ils en parlent, ils préparent le repas, ils font la décoration pour la cérémonie, tout ça. De faire les, je trouve le livret d'activité, ça permet aussi de faire quelque chose de concret.
Exactement.
Et c'est à ce moment-là que finalement la chape de plomb, elle peut tomber, parce que ensemble, et puis parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une mise en mouvement qui est nécessaire pour les thématiques un petit peu comme ça, difficiles, pour lesquelles on peut avoir de l'appréhension.
Ouais. Oui, et puis il y a un déroulé, en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était c'est pas de parler de la mort, voilà, c'est terminé, c'est lourd, c'est terrible. Moi, je veux parler de la vie, je veux parler des émotions, je veux donner aux enfants une forme d'espoir qu'ils vont traverser cette période qui est difficile, mais ils vont être plus forts derrière. Ils vont avoir des émotions qu'ils auront traversées comme un voyage, et leur donner cette espèce d'encouragement, d'espoir et d'appui, de soutien sur le chemin.
D'accord. Mais c'est ça qu'on ressent tout à fait, oui, effectivement, dans les ateliers. Et puis dans ce que tu disais sur... Donc effectivement, il y a un atelier intergénérationnel qui a été organisé à l'EHPAD de Blanche-Laine, à Aux-sur-Cie, ce dont tu parlais tout à l'heure avec le petit enfant. Et c'est vrai que nous, on a eu beaucoup de demandes au niveau de Thanatosphère, en fait, de parents qui avaient envie d'être accompagnés pour aborder cette thématique avec leurs enfants, parce qu'ils ont un peu peur, des fois, je pense, de dire des bêtises ou de ne pas être en capacité peut-être de répondre aux demandes des enfants.
Oui, c'est vrai. Et justement, moi, je pense que c'est un espace qu'il faudrait ouvrir. Alors, je fais appel à tous les centres sociaux qui seraient intéressés ou autres, d'ouvrir cet espace pour programmer des ateliers où les parents peuvent venir avec leurs enfants et en parler avant. Comme on disait tout à l'heure, comme Sophie Gidreau le disait, il faut en parler avant. Alors, c'est sûr, on n'a pas envie d'interrompre la vie, les jeux... les activités qu'on fait pour venir parler de la mort. Mais je pense que c'est essentiel. C'est d'utilité publique de s'y préparer.
En plus, là, on n'interrompt pas, on participe. C'est-à-dire, on crée un atelier, on crée un événement, on est dans la continuité de la vie.
Tout à fait.
C'est ça qui est très joli aussi dans ce que vous proposez. Eh ben, merci beaucoup pour ces informations. En tous les cas, on va relayer. Nous, on a très envie de continuer à travailler avec Saul et son autrice. Et donc, de proposer l'activité dans différents types de structures. Et puis, on a eu plusieurs demandes. Donc, je pense que c'est vraiment une demande qui est émergente en tous les cas. Et on a envie de travailler avec les enfants. Les enfants et la mort, c'est vrai qu'ils sont très touchés. Parce que déjà, c'est un âge où, déjà avec ce que racontait Colline, les animaux.
Ouais.
Et c'est très souvent qu'on commence, on se familiarise avec la mort, avec des animaux ou des éléments de son paysage. Ou après, ça peut être aussi des choses qu'on perd, des déménagements. Et puis quand on est enfant, on est aussi confronté des fois au départ des grands-parents, au décès des grands-parents. Ouais. À des fois des maladies de la part des parents. Et puis aussi dans l'entourage d'autres enfants. Et on a toujours l'impression qu'on veut épargner les enfants quand on n'en reparle pas. Alors que c'est vraiment aussi un âge charnière où on y est confronté. C'est pas du tout que les personnes âgées. C'est ce qu'on dit toujours au sein de l'association Thanatosphère. C'est comme ça concerne tout le monde, autant en parler à tout le monde. Et c'est vrai que le livre Soul aussi, en proposant les activités, le livret d'activités, ça permet aussi aux parents d'en parler, ça permet aux grands-parents, ça permet à l'adulte qui est autour de l'enfant de se saisir de la thématique en étant guidé et peut-être rassuré sur aussi sur... C'est-à-dire on propose un chemin, donc s'il y a un chemin, il y a un départ, mais il y a aussi une arrivée. Donc c'est peut-être ça aussi qui est rassurant avec un livret d'activité, c'est qu'on est guidé et on va quelque part, on ne va pas disparaître dans...
Ouais. Tout à fait. Et puis, ce livret, il a vraiment été conçu pour comme une médiation, pour le dialogue et pour donner les bons mots aussi, parce que parfois, on ne sait pas quel mot utiliser. Et là, on est guidé en douceur.
Ouais. Et de relativiser avec la perte d'un arbre, qui peut être quelque chose de... C'est vrai, voilà. Dès qu'on tourne le dos, on a l'impression que maintenant, toutes les forêts se transforment en champs de pavillons. Donc, c'est des choses qui nous arrivent assez régulièrement. Et donc, ce n'est pas la mort seulement d'une personne, d'un être cher, c'est vraiment tout ce qu'on peut vivre au quotidien qui nous suscite du chagrin et qui est irrémédiable, parce que c'est aussi ça.
Ouais, tout à fait. Je pense que c'est ce livret et cet album, ils traitent de la perte en général. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup. Merci les enfants pour votre participation. Merci beaucoup, beaucoup à Sophie. Excusez-nous, des fois, c'était pas extraordinaire la liaison, mais elle est vraiment extrêmement loin. Merci à Joël. On espère proposer bientôt d'autres activités. Traditionnellement, je finissais l'émission par ce que faisait Thanatosphère, mais maintenant on fait tellement de choses qu'en fait il faudrait une émission consacrée à l'agenda Thanatosphère. Donc je vous invite à vous inscrire à la newsletter de l'association en passant par le site www.thanatosphère.fr.
et au plaisir de vous retrouver. Et n'hésitez pas, du coup, comme Joël, si vous faites des choses et si vous avez envie de travailler sur la thématique, eh ben, à nous solliciter via notre fiche de contact. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Tout se passe bien depuis votre mort ?
La mort est une fin normale en soi.